À quoi tu penses?
Tu sais.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on reviendra sur la suite de la conférence de presse d'Alain Rousset, sa conférence de rentrée. Le président de la région va notamment parler des énergies. Et puis, on vous donnera quelques bons plans sortis, des recommandations musicales. Et on accueille tout de suite notre invité du jour, c'est Fabien Vasselin du syndicat Snudi FO. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour faire un petit point sur cette rentrée 2024. À Poitiers et dans la Vienne. Alors, tout d'abord, quelle est un petit peu l'ambiance dans les écoles, les collèges, les lycées de la Vienne en cette rentrée ?
Nous, on ne partage pas le point de vue du directeur académique qui dit que la rentrée s'est bien passée. Enfin, il ajoute relativement. La rentrée s'est relativement bien passée. Le relativement, tout est dans le relativement, finalement. Parce qu'effectivement, on n'a pas une situation qui s'améliore dans les écoles. Ce n'est pas une situation qui était déjà formidable avant. Ça se dégrade encore davantage aujourd'hui. Nous, on se félicite effectivement d'avoir eu un recrutement sur les listes complémentaires du concours de recrutement des professeurs des écoles. C'est-à-dire qu'on est une profession où on a quand même du mal à recruter aujourd'hui. Donc c'était assez étonnant que 43 personnes se retrouvent sur liste complémentaire non appelées alors qu'on avait des besoins importants dans le département. Il y a eu une erreur de calibrage du ministère qui dure depuis des années. Ça fait plus d'une dizaine d'années au moins qu'on dit que les calibrages sont insuffisants. C'est-à-dire qu'en fait, on ne remplace pas les personnes qui partent à la retraite ou qui quittent le département en nombre suffisant. Donc c'était une demande importante aussi bien pour les personnes qui étaient sur ces listes complémentaires que pour nous qu'il y ait le recrutement de l'intégralité des listes. Donc on se félicite qu'effectivement il y ait eu le recrutement des 43 personnes sur listes complémentaires, donc 3 pour les Deux-Sèvres, 3 pour la Charente et 37 chez nous. Malheureusement, il y en a un certain nombre qui se sont désistés, donc ce n'est pas un recrutement totalement de 37 personnes. Donc c'est vrai que c'est un plus pour cette rentrée.
C'est quand même bien. Un peu la bonne nouvelle de cette rentrée. C'est des personnes qui ont eu le concours, mais qui étaient sur liste d'attente, en fait.
C'est ça, parce qu'en fait, le ministère avait considéré qu'on n'avait pas besoin de tout le monde. Voilà, donc c'est bien qu'ils étaient appelés, surtout déjà pour eux et puis pour les écoles, parce qu'on en avait besoin. Sauf qu'on se rend compte que les besoins sont depuis tellement longtemps sous-estimés que déjà ce recrutement ne suffit pas et qu'il a fallu prendre des personnes hors contrat, hors statut, donc sous contrat, c'est-à-dire des contractuels. Et donc, c'est une rentrée qui se fait un petit peu en catastrophe, parce que c'est vrai que si ces personnes recrutées sur liste complémentaire l'avaient été dès le début, toute la formation autour d'eux aurait pu être mise en place, les affectations auraient pu être faites beaucoup plus tôt, et là, finalement, la rentrée s'est faite dans certaines écoles, on n'avait pas encore les personnels recrutés, et on ne sait pas comment ils vont être formés cette année, parce que ça demande du temps, des moyens aussi, en conseiller pédagogique, en tuteur pour ces personnes-là. Donc beaucoup de choses se sont faites dans la précipitation, notamment au niveau des affectations sur les écoles. Et c'est vrai que ça a été une situation de stress finalement dès la rentrée, parce que dans beaucoup d'écoles, pas beaucoup d'écoles, mais dans un grand nombre quand même par rapport à d'autres années, il manquait un enseignant, voire il manquait deux enseignants, voire l'organisation des services n'était pas prête. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les collèges et les lycées, c'est-à-dire une rentrée où, faute de moyens administratifs, faute d'anticipation, finalement on fait les choses un petit peu « vas-y comme je te pousse », avec dans certains collèges ou certains lycées ou dans certains services administratifs du rectorat, il faut saluer comme les personnels administratifs qui font un boulot énorme et qui ne déméritent pas, mais qui avec très peu de moyens, avec des moyens suffisants, se sont retrouvés à des fois faire beaucoup plus d'heures que ce qu'ils devaient faire, voire à travailler le soir et voire à travailler le samedi et donc renoncer à leur vie de famille. Donc il y a quand même une rentrée qui se fait dans des conditions finalement où on peut avoir effectivement le sentiment que ça se passe bien, mais derrière, ça a été effectivement très difficile. C'est-à-dire que dès la rentrée, on a des personnels qui sont déjà épuisés, qui sont déjà fatigués et qui sont déjà aussi en colère parce que c'est pas faute d'alerter depuis des années. La liste complémentaire, ça fait des années qu'on le dit qu'il fallait, très tôt, on a dit qu'il fallait la recruter. Ça fait très longtemps qu'on a dit que le recrutement initial était insuffisant pour pourvoir à tous les départs en retraite et pourvoir les besoins manquants. Et là, on est déjà dans une situation de rentrée où on manque de remplaçants dans certains secteurs du département. Et donc, ça annonce effectivement assez mal pour les périodes un peu plus compliquées qui vont être l'hiver et puis le printemps où il y a des épidémies, etc.
C'est-à-dire qu'en chiffres, ça colle, mais c'est des gens qui se sont retrouvés la veille de la rentrée à découvrir leur affectation, rien n'est prêt. Et alors, vous avez noté d'ailleurs une hausse des alertes de santé et de sécurité au travail. C'est ce que vous dénoncez en cette rentrée. Est-ce que ces situations-là d'urgence, de manque de personnel remplaçant, par exemple, est-ce que ça y contribue peut-être ?
C'est vrai que le fait qu'il y a un manque de personnel, ça veut dire que quand on ne remplace pas dans une école, ça veut dire qu'on répartit les élèves dans les autres classes. Ça veut dire qu'effectivement, c'est du travail en plus pour les enseignants qui sont présents, donc de la fatigue supplémentaire, du stress, une organisation au dernier moment est des fois très compliquée. Des fois, on annonce un remplaçant et puis finalement, il n'y en a pas. Donc le fait que ce soit finalement géré à la petite semaine, au bout d'un moment, est très compliqué, notamment pour les directeurs. Et puis au bout d'un moment aussi, les parents peuvent en avoir marre. Quand l'année dernière, on a eu des écoles qui ont connu des fois plusieurs remplaçants, une dizaine, des fois un mois sans avoir de remplaçants. Donc on répartit les élèves, on s'échange et on se déplace les remplaçants, ce qui est aussi usant pour les remplaçants, parce que finalement c'est une perte de métier derrière. Et puis finalement ça renvoie quand même une image que finalement, bon, c'est pas grave, des élèves qui n'ont pas classe pendant une semaine, pendant deux semaines, ou qui n'ont pas leur enseignant pendant un mois, c'est pas bien grave. Et c'est quand même ça un problème, parce que ça veut dire qu'effectivement, pour les enseignants, c'est une perte de reconnaissance du métier. Pour les enfants, quand ils reviennent, c'est aussi compliqué de reprendre la classe quand on n'a pas eu d'enseignant pendant aussi longtemps. Et puis, c'est un stress aussi, parce qu'effectivement, il y a une culpabilisation. Ce n'est pas toujours bien vécu par les parents. Même si l'enseignant est tout à fait légitime à s'arrêter et qu'il peut avoir des problèmes de santé, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent générer aussi de la colère dans les relations au niveau de ce qu'on appelle la communauté éducative, hein, entre les enseignants, voire des fois les mairies et les parents d'élèves. Et c'est effectivement une situation qui est dommageable et qui n'arrange pas les choses derrière. Donc effectivement, d'avoir des services publics qui fonctionnent, c'est important pour tout le monde. Mais c'est aussi, aujourd'hui, c'est ce qu'on dénonce, hein, c'est-à-dire que ces économies qui sont faites, finalement, derrière, en tout cas ces tentatives d'économie, en fait, finalement, génèrent plus de catastrophes, que ce soit le fait que les élèves, finalement, n'aient pas classe. C'est quand même déjà un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que finalement, ça génère de la fatigue, des fois des arrêts maladie, etc., qui ont finalement un coût, alors que si finalement l'éducation nationale était gérée un peu plus correctement et les personnels moins méprisés, un peu plus écoutés, qu'on n'imposait pas à chaque rentrée une nouvelle réforme totalement rejetée par la profession, que ce soit le choc des savoirs ou que ce soit les évaluations nationales, les évaluations d'école qu'on est en train de nous imposer, qui ne servent à rien, qui durent 40 ou 50 heures hors temps de travail et qui finissent dans un tiroir pour absolument rien. Toutes ces petites choses, finalement, qui sont inventées en haut sans aucune réflexion, font qu'effectivement, la santé des personnels va mal. Et voilà, on voit une augmentation. Voilà, il y a une dizaine d'années, on avait 30 à 40 registres santé-sécurité au travail remplis par an. Là, on est à 373 pour tout ce qui est éducation nationale dans le département. C'est des chiffres énormes et qui ne cessent d'augmenter.
Est-ce que, alors là, vous n'allez pas avoir de réforme à la rentrée, vous n'avez pas de ministre, est-ce que ça pose problème ? Est-ce que ça interroge ? Est-ce que ça inquiète aussi les personnels ?
Ça pose un problème parce qu'effectivement, il y a des décisions aussi à prendre, qu'on aimerait effectivement avoir un ministre qui nous écoute. Alors bon, on pourra avoir un nouveau ministre, hein, qui n'écoute pas. Nous, effectivement, ce qu'on demande, c'est d'avoir un ministre. Ça fait 70 jours qu'on n'en a pas. Même Madame Belloubet, lors de sa conférence de presse, a dû reconnaître qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas prêtes et qui ne fonctionnaient pas, notamment sur l'inclusion des élèves en situation de handicap, mais pas seulement, et qu'elle-même, finalement, n'avait pas l'air de croire forcément beaucoup à la réforme des chocs des savoirs, qui a été décidée par un autre ministre, et qu'elle n'avait clairement pas l'air d'assumer. Et finalement, comme dans la plupart des endroits où les enseignants sont obligés de présenter cette réforme comme bénéfique pour les élèves, alors qu'eux-mêmes n'y croient pas, que ça ne correspond absolument pas à ce qui est diagnostiqué par la profession depuis des années. Mais on y va quand même parce qu'il y a quelqu'un à un endroit, à un moment, qui a décidé de ça, parce que dans les médias, ça passait bien, parce que ça flattait certaines personnes de pouvoir croire qu'on allait retourner au bon vieux collège d'antan où on faisait les classes en fonction des niveaux, alors qu'en réalité, on est en train juste de mettre au collège le même bazar qu'on a pu mettre dans les lycées, en cassant les fameux, là, dans la réforme du lycée, en cassant les filières, finalement, ce qu'on appelait les bacs ES, S et L, où aujourd'hui, finalement, les élèves sont trimballés d'un groupe à l'autre avec des options où les parents n'y comprennent rien, les élèves ont bien du mal à y comprendre, et où, finalement, on ne sait plus exactement ce que chacun fait.
Alors, vous avez abordé plusieurs points. Alors, il y a les évaluations qui sont maintenant à tous les niveaux. Alors, justement, cette semaine, au niveau de l'académie, les responsables vont dans les écoles pour découvrir ces évaluations en CE2 et CM2. Vous en pensez-vous d'évaluer les élèves en continu ?
On se pose la question déjà du caractère obligatoire. Alors, effectivement, nous, on considère qu'elles ne sont pas obligatoires. Qu'on nous mette à disposition un outil, finalement, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'effectivement, elles sont imposées partout. dans une rentrée, dans un contexte qui est assez compliqué. Et finalement, au bout d'une semaine, les élèves à peine arrivés, donc il faut imaginer les élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, tous se retrouvent en évaluation au bout d'une semaine où ils arrivent. Il y a peut-être mieux comme accueil, voilà. Même si, effectivement, connaître le niveau des élèves est important pour les enseignants. Mais cela dit, en fait, on savait le faire sans ces évaluations. On ne se retrouve pas toujours non plus dans ce qui est évalué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on évalue des choses, par exemple, comme la lecture, à travers notamment un indicateur qui, aujourd'hui, est privilégié, qui est l'affluence, c'est-à-dire à quelle vitesse l'enfant va lire. On s'en fiche un petit peu, finalement, après, quand on va regarder les statistiques, s'il comprend ce qu'il lit. Et on sait que ce n'est pas forcément l'élève qui lit le plus vite qui comprend le mieux. Donc, en fait, on est dans le décodage. Et finalement, après, on va utiliser ces indicateurs pour justifier un certain nombre de politiques publiques qui sont inacceptables. Et donc, en fait, oui, ça pose beaucoup de questions parce que finalement, on crée des usines à statistiques. C'est beaucoup de travail pour les enseignants d'évaluer. Alors, même si on a réussi à obtenir que ce ne soit pas les enseignants qui fassent toutes les photocopies et que ça soit fourni, que ça soit fait au rectorat, le problème, c'est que c'est les conseillers pédagogiques qui en sont censés faire autre chose, peut-être à la rentrée, comme par exemple s'occuper des stagiaires qui sont arrivés, qui se retrouvent à faire livreur d'évaluation d'école pour les ramener aux réunions des directeurs qui eux-mêmes transforment leur voiture en véhicule de livraison pour les ramener dans leurs écoles. Et tout ça avec le véhicule personnel, à vos propres frais, etc. Donc effectivement, il y a déjà ce problème-là de logistique derrière. Nous, depuis des années, on a dit, vous voulez qu'on passe des évaluations, vous nous les livrez dans les écoles. C'est pas le boulot des enseignants de faire livreur. Et c'est bien une idée derrière, sans maintenant, on doit pouvoir savoir tout faire et faire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un premier problème, c'est que les évaluations, les enseignants ne s'y retrouvent pas, pas toujours en tout cas, et qu'ensuite, après, c'est effectivement une semaine quasiment, même plus, bah, de faire passer les évaluations aux élèves, plus un travail énorme de saisie qui se fait finalement sur le temps personnel au lieu de préparer la classe. Donc beaucoup d'enseignants, effectivement, se posent la question de cette pertinence, à part finalement fournir des indicateurs au ministère qui, comme on l'a vu l'année dernière à la carte scolaire, donne la possibilité de faire des PowerPoint qui durent de 1 heure à 2 heures qu'on nous présente, au lieu de discuter des vrais problèmes des écoles. Et ensuite, ces indicateurs et ces chiffres sont utilisés pour essayer d'expliquer aux élus, et on alerte les élus là-dessus, vous allez avoir des réunions avec les communautés de communes, on va essayer de vous faire avaler que les statistiques de votre école sont exécrable, que c'est parce que c'est une petite école, que c'est parce qu'elle est rurale, que c'est parce qu'il y a des classes à multiniveaux. Et ensuite, on va essayer de vous regrouper, on va essayer de fermer les écoles, fermer les classes. C'est ça l'objectif derrière. L'objectif des évaluations d'école, c'est mettre en concurrence les écoles et c'est mettre en concurrence les territoires. Et c'est ensuite essayer de justifier une politique qui a déjà été décidée avant.
Alors sur la question du choc des savoirs et des groupes de niveau, groupes de besoins qui s'installent au collège, comment ça se met en place ?
Ça se met en place difficilement parce que effectivement, les enseignants sont quand même attachés au système et comme les élèves finalement à être dans un groupe classe. Donc là, on casse effectivement ce groupe classe. Alors, on a beaucoup tergiversé. Est-ce que c'était groupe de niveau ou groupe de besoin ? Bon, finalement, en 9 langues, ça a donné groupe de besoin. On a oublié les groupes de niveau parce qu'il n'est pas question de classer les enfants par résultat. Mais les conséquences, c'est des emplois du temps qui sont très compliqués à faire pour les chefs d'établissement, qui se sont arrachés les cheveux. Parce que quand vous n'avez pas assez d'enseignants, c'est difficile de mettre un enseignant devant chaque classe, surtout quand en plus vous devez faire des groupes de niveau, que vous devez faire des répartitions d'élèves, et puis il faut que ça coïncide dans les emplois du temps. Donc en conséquence, en fait, en réalité, c'est des emplois du temps beaucoup plus longs pour les élèves de 6e, avec finalement des permanences, parce qu'ils doivent s'adapter à la possibilité qu'a l'établissement de fournir des professeurs. Donc plus l'établissement est petit, plus ça peut être compliqué. Pour les enseignants, les conséquences, ça peut être aussi effectivement ne pas finalement connaître aussi bien leur groupe. Et en plus, il y a comme conséquence que des fois, on se retrouve avec, pour une même un même groupe classe, finalement, pour une même matière, avec 2 enseignants, voire même 3. Parce que finalement, on va réutiliser les heures que chaque enseignant doit faire. Et on va même déplacer des fois les enseignants sur une même journée, faire des allers-retours entre des établissements, parce qu'il faut optimiser les moyens. Et parce que, effectivement, ces groupes de niveau, finalement, créent des complications au niveau des emplois du temps et qui sont insolubles. Donc c'est vrai que c'est quand même notable. Les chefs d'établissement ont été l'année dernière quand même en grève et en manifestation. C'est quand même assez rare pour le souligner, contre cette réforme-là, qui est finalement totalement ingérable et qui fait porter sur leurs épaules finalement tout un tas de difficultés et qui fait que les enseignants sont mécontents, les enfants sont finalement avec des groupes que les parents ne comprennent pas et ça génère de la colère. Pour une réforme dont le bénéfice est finalement au bout assez faible. Et d'ailleurs, finalement, assez peu de personnes pensent que ça puisse apporter quoi que ce soit. Malheureusement, c'est comme beaucoup de réformes qui ont été faites dans l'éducation nationale et depuis des années. À chaque fois, on présente la dernière réforme comme la solution. On n'en fait jamais le bilan, on n'en fait jamais le diagnostic. En réalité, ça ne fonctionne pas. Et en réalité, on continue et ça continue à désorganiser et ça continue à empêcher effectivement que l'école fonctionne. Donc c'est vrai que c'est une demande des enseignants aujourd'hui, c'est « laissez-nous travailler ». arrêtez avec vos réformes, arrêtez au ministère de pondre un nouveau truc, parce qu'à chaque fois que vous nous annoncez quelque chose, on sait que ça va être pire et on se demande à chaque fois quel va être le prochain sale coup. Et c'est effectivement, malheureusement, le ministère aujourd'hui est une machine à engendrer des sales coups contre les établissements, contre les écoles, contre les personnels et finalement même contre les élèves.
En tout cas, les enseignants, comme les autres membres du personnel du service public, seront mobilisés ces prochaines semaines, notamment peut-être par rapport aux annonces d'austérité qui sont faites au gouvernement, en tout cas Premier ministre, puisqu'il est un peu tout seul en place. C'est ça qui va peut-être vous amener dans la rue ces prochains temps ?
Bah nous, notre objectif, ce n'est pas d'être dans la rue ou d'être en grève, ce serait d'être entendu avant. Donc déjà, ça pourrait être effectivement un message pour le Premier ministre. Ça serait peut-être d'entendre, d'écouter. Il y a eu des élections, il y a eu des résultats. Je crois que la politique macroniste, c'est ce qu'il veut poursuivre, le nouveau Premier ministre. Elle a été rejetée dans les urnes. Voilà, c'est un constat qui est clair et net. Ça a été rejeté dans la rue au niveau de la réforme des retraites. Aujourd'hui, ça génère de la colère dans les écoles ou dans les collèges par rapport à la politique du ministère de l'Éducation nationale et la politique en général. Donc la solution, ça serait effectivement qu'il y ait quelqu'un qui à un moment entende, plutôt que quelqu'un qui vienne avec des idées et avec effectivement un plan d'économie, parce qu'en fait, en réalité, c'est ça, c'est toutes ces réformes sont en réalité des plans d'économie, des cures d'austérité. L'objectif, c'est clairement que le service public coûte moins cher à fonctionner, et on s'en fiche un petit peu finalement que les élèves, à la fin, le niveau, lequel sera-t-il ? On dit toujours que c'est pour faire augmenter le niveau. D'ailleurs, ils l'ont bien trouvé, hein, c'était groupe de niveau au début ce qu'ils voulaient faire. En réalité, c'est pas ça. L'objectif, c'est faire des économies. Donc on pourrait derrière mettre plan d'économie devant chacune des réformes. Et d'ailleurs, c'est ce que la Cour des comptes dit clairement. Et aujourd'hui, on en est là. Donc on a un Premier ministre qui va faire un gouvernement pour essayer de faire passer les mesures qui ne sont pas passées avant, dont les Français ne veulent pas quand on voit les résultats dans les urnes. Et on alerte, effectivement. La colère s'est exprimée dans les urnes. Elle pourra s'exprimer dans la rue à un moment ou à un autre. Mais pour nous, l'objectif, ce n'est pas la grève. Ce sera d'être entendu. C'est-à-dire que la réforme des retraites, effectivement, qu'on a combattue, soit retirée. Et que toutes les réformes, que ce soit les chocs des savoirs et les autres qu'il y a pu y avoir avant, et notamment qui sont pour la plupart étiquetées Jean-Michel Blanquer, soient retirées et qu'on puisse revenir à un fonctionnement où les choses iraient bien. Et ensuite, être entendu aussi sur les problèmes de l'école. Madame Belloubet elle-même l'a dit, Gabriel Attal l'avait dit avant, on a quand même 24 000 enfants en situation de handicap pour lesquels les MDPH ont fait une notification disant « Ces élèves-là, par rapport à leur situation, ont besoin d'une place en ESMS, donc en établissements sociaux ou médico-sociaux, donc des établissements spécialisés avec des personnels spécialisés, des enseignants spécialisés. C'est vrai que ça a un coût. C'est beaucoup plus cher de mettre un élève dans un établissement comme celui-ci. Mais à un moment, c'est aussi une décision à prendre parce que ces élèves, ces 24 000 qui sont aujourd'hui sans place en établissement spécialisé, ils sont en milieu ordinaire, en souffrance. Des fois, ça génère de la souffrance pour les enseignants aussi qui ne peuvent rien faire pour eux. De la souffrance pour les AESH qui, finalement, des fois, sont là et dans des situations, des fois, d'extrême difficulté, parce que des fois, ça peut bien se passer. L'élève n'apprend rien, mais bon, il est calme. Des fois, il n'est pas toujours calme dans la classe, ni dans la cour. Et puis, effectivement, c'est des enfants qui peuvent exprimer une certaine souffrance ou des difficultés. Donc, c'est effectivement une demande. Par rapport aux prochains ministres qui seront nommés, oui, il y a un coût. Hein. C'est vrai que c'est à peu près un milliard et demi par an de créer toutes les places qu'il faudrait. Mais en même temps, quand on parle de handicap, comme on le fait depuis des années, le président de la République a dit que c'était une de ses priorités parmi toutes les priorités qui sont des priorités. Effectivement, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, c'est même plus qu'une nécessité, c'est une urgence pour les familles, pour les enfants et puis pour aussi les enseignants. Et c'est aussi une demande, les enseignants spécialisés, on en a besoin également.
Un grand merci Fabien Vasselin du syndicat SNUDIFO d'être venu nous faire un point sur cette rentrée dans l'académie. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec 47 Soul. Ils étaient au Festival Musique Métis en juin dernier. C'est du Tagbé électro de Palestine, cette danse traditionnelle avec des riffs de guitare et puis bien sûr une magnifique voix. Voici donc 47 Soul.
listen to the Falahin boy.
Pulsar, les étoiles en plus.
Ah ouais.
Vendredi dernier, Alain Rousset, le président de la région, faisait sa conférence de presse de rentrée et il se rendait dans l'après-midi à une visite d'usine de batteries. Et voici les commentaires qu'il en faisait par rapport aux missions de la région sur les énergies.
Ce souhait que on a fomenté depuis plus de 10 ans au niveau de la région sur le fait que la région Nouvelle-Aquitaine soit le cœur de la transformation des sources d'énergie, et notamment sur la mobilité. La batterie, ce n'est pas simplement la batterie du véhicule électrique. C'est demain l'avion électrique, c'est Voltaero à Rochefort, c'est aussi le train électrique qui va nous permettre de dédieseliser l'ensemble de nos trains et de nos cars. Vous imaginez, on fait rouler 5000 bus par jour sur le transport scolaire et sur le transport intercité. Donc ce choix d'être la première région et co-responsable durable dans le paysage des pouvoirs publics et de l'existence aussi technologique et industrielle. Et tout ça fait partie aussi de notre inquiétude sur les moyens qu'ont les régions françaises. Notre budget est de l'ordre, je regarde François Poupart, de 3,5 milliards. Quand le budget d'une région jumelle avec laquelle on a une coopération qui est le Land de Hesse en Allemagne, a un budget de plus de 40 milliards. Alors certes, dans ce Länder, il y a la compétence éducation et il y a la compétence santé, mais on voit bien aussi que l'ensemble des politiques publiques prenons la santé. Nous avons lancé avec Denis Malvy, avec Gilles Boeuf, avec Françoise Jonson et Gérard Blanchard cette stratégie il y a plus de 4 ans, One Health, une seule santé, avec ce que le Covid, et on l'a fait avant le Covid, ou la Covid, ce que aujourd'hui l'interdépendance des problèmes de santé végétale, environnementale, animale et humaine nous adresse comme défi. Et d'ailleurs, je vous invite à retrouver un article de Gilles Boeuf dans Le Monde, avec un de ses collègues du Muséum d'Histoire Naturelle, qui concerne le débat public que vous entendez souvent, d'ailleurs, dans l'Assemblée régionale de la part de certaines formations, arrêter avec l'écologie punitive. Sauf que ce n'est pas l'écologie qui est punitive. Ce n'est pas la transition qui est punitive. C'est le dérèglement climatique qu'il est. Et qu'il est massivement à l'égard à l'égard des agriculteurs, à l'égard des conditions de vie de tout un chacun, singulièrement les personnes qui sont dans des logements non thermiquement protégés, que le basculement que nous avons aujourd'hui doit être pris en compte. C'est-à-dire que les problèmes vont avoir lieu par rapport, non par rapport au froid de l'hiver. La tendance est au réchauffement climatique, mais au très chaud de l'été. Et donc, c'est toute une révolution qu'il faut accompagner, que l'on fait avec Nobatech, que l'on fait avec le réseau des entreprises de transition climatique, notamment nous-mêmes, en montrant l'exemple au niveau des lycées, sur le passage à la géothermie versus pompe à chaleur, qui d'ailleurs produit chez nous des créations d'entreprises dans le domaine de la prospection géothermique, des pompes et des réseaux de chaleur. Et quand on regarde l'économie d'un lycée, par exemple, par rapport à ces fluides, et vous savez que le coût de l'énergie a complètement bousculé notre budget depuis la guerre en Ukraine, nous avons aujourd'hui, pour tous les lycées qui sont basculés, donc pour les finances régionales, des retours sur investissement, François, de l'ordre de 5 ans, 6 ans, peut-être 7, mais c'est de l'investissement sur l'avenir que l'on a là-dedans. Donc je voudrais insister sur le fait que Néoterra demeure, bien entendu, non seulement notre feuille de route dans tous les domaines, mais notre boussole.
C'était donc Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, lors de sa conférence de presse vendredi dernier. Demain, dans Séquence Midi, nous parlerons notamment de l'événement Fête de l'escalade. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Et il est présenté par Yves.
Oui Anaïs, qu'y a-t-il à faire aujourd'hui à Poitiers, ce jeudi 17 septembre ? Alors on commence par un événement littéraire. À l'occasion de la sortie de son dernier livre Entretien, La vie c'est risqué, Martin Winkler sera présent à la médiathèque François Mitterrand aujourd'hui à 10h30 afin de nous parler de son double parcours de médecin et d'écrivain et de ses combats au sein de l'institution médicale pour une médecine plus humaine, respectueuse de l'individu, de son autonomie et de ses choix. Comme par exemple ses prises de position en faveur de l'IVG, du choix pour les jeunes femmes de porter un stérilet ou encore de l'assistance médicale à mourir. C'est aujourd'hui à la médiathèque François Mitterrand à 18h30. L'entrée est libre. Une recommandation de film maintenant. Le TAP Cinéma organise la diffusion courant en septembre du nouveau film de Claire Burger, Langue étrangère. Langue étrangère, c'est la tentative de dresser le portrait d'une certaine partie de la jeunesse actuelle et de ses aspirations pour un changement social face à la politique et face à l'urgence climatique. On suit l'histoire de la relation entre deux lycéennes qui font un échange franco-allemand. Deux séances sont prévues aujourd'hui au TAP Cinéma, l'une à 15h45 et l'autre à 18h30. Et enfin, pour rester sur la thématique de l'engagement vers une transition écologique et sociale, l'association Aether Narratio organise ce soir une conférence par des alumni de l'Université de Poitiers, devenus actuellement journalistes spécialisés dans l'environnement. Ils y présenteront leur podcast intitulé « Éveille ta ville », dont Radio Pulsar est partenaire. Au programme de l'événement, des moyens concrets pour vous engager pour la transition écologique et sociale à votre échelle, une série de photoreportages présentant des solutions d'avenir développées dans plusieurs villes d'Europe, les efforts des villes en alliance avec Poitiers pour lutter contre le dérèglement climatique, les coulisses de fabrication d'un podcast engagé, donc Éveille ta ville, et les conseils pour voyager plus vert de la route du soja, un duo d'aventuriers et d'aventurières bas carbone qui ont parcouru 50 000 km entre Poitiers et Taïwan en transport en commun. Donc pour en savoir plus et y participer, inscrivez-vous via leur formulaire en ligne. L'entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous, étudiants ou non. Rendez-vous donc à 18h30 jusqu'à 20h30 dans la salle des actes de l'UFR Lettres et Langues, bâtiment A3 du campus de l'Université de Poitiers.
Merci beaucoup Yves. Quant à toi, on te retrouve dès le mois d'octobre pour Espace Matin avec toute ton équipe en recrutement. D'ailleurs, si vous voulez faire de la radio, vous pouvez nous rejoindre. Donc Espace Matin, c'est du lundi au vendredi de 8h à 9h et c'est pour tous les novices en radio. En ce mardi sur Pulsar à 19h, c'est Slam à tout va, émission d'art oratoire sous toutes les formes. À 20h, c'est Pétales de Sakura et à 21h, Culture Dub avec toujours des festivals, des places pour des festivals et des CD ou des vinyles à gagner. Gagnier. Merci beaucoup Yann pour la réalisation technique de cette émission. Demain, c'est mercredi, bien sûr, c'est votre rendez-vous cinéma. Ne ratez pas donc Séquence Midi à 12h30. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi en musique. À demain.